Nous retrouvons pour notre chronique nature Pierre Maussan. Bonjour Pierre Maussan.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Pierre Maussan, le directeur du CEN, le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne, avec qui on va parler aujourd'hui des espaces naturels justement. Il se trouve que le Conservatoire, le CEN, est gestionnaire d'espaces naturels, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Qu'est-ce que ça signifie la gestion ? C'est vrai que c'est curieux parce que quand on parle d'espace naturel, on pourrait penser qu'il n'y a pas besoin de gérer.
Voilà.
Pourtant, quand on regarde autour de nous, on voit bien que la nature évolue et on le voit notamment quand on regarde les paysages. Et quand on examine de vieilles cartes postales, on voit bien que le paysage a changé. Mm-hmm. Rien n'est figé, les choses évoluent. L'autre élément, c'est espace naturel. On peut mettre un point d'interrogation, effectivement, parce qu'en Auvergne ou même partout en Europe, voire tout autour de la planète, aujourd'hui, des espaces naturels qui ne seraient pas sous influence humaine, ça n'existe plus.
Pratiquement plus.
On a le changement climatique global, on a des choses qui circulent dans l'atmosphère, etc. Et puis, il y a les activités humaines, chez nous, très présentes, à travers l'élevage, notamment, à travers les activités forestières. Donc, aujourd'hui, les espaces naturels, c'est un équilibre entre le milieu naturel, la géologie, le climat, mais aussi les activités humaines.
Et alors vous, au CEN, pourtant, vous arrivez à gérer des espaces naturels. Comment vous faites, comment vous choisissez vos types d'interventions, d'après quels critères, qu'est-ce qui oriente vos choix ?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont être pris en compte lorsqu'on va déterminer les actions de gestion qui sont à mener. Le premier, c'est le plus naturel, sans jeu de mots, la biodiversité. Donc la diversité biologique, les espèces sauvages qui sont présentes. Par exemple, on peut dire sur les coteaux de Clermont-Ferrand, on va favoriser les orchidées sauvages. Donc les orchidées, elles ont besoin d'énormément de lumière. Mais alors si on favorise les orchidées et qu'on débroussaille le site, ça se fera peut-être aux dépens de certains oiseaux qui, eux, ont besoin de zones de buissons pour pouvoir nicher. Donc on voit bien que là, on a un choix à faire. Et puis on pourrait aussi décider de laisser évoluer pour aller vers des chênaies chaudes qui aiment bien la chaleur, dans lesquelles on aurait certains insectes comme le lucane cerf-volant.
Alors après, voilà. Ça se fait comment ? C'est soit on préfère les orchidées, soit on préfère les lucanes ou...
Alors on verra tout à l'heure qu'on essaie d'avoir une réflexion la plus scientifique possible en faisant appel notamment à notre conseil scientifique. L'autre élément qu'on peut prendre et qu'on prend en compte aussi, c'est les attentes sociales, les attentes des voisins, des riverains, des gens qui fréquentent le site. Toujours, si je reste sur l'exemple des côtes de Clermont-Ferrand, on voit bien aujourd'hui que le développement de la friche perturbe un peu les gens et qu'ils ont plutôt envie d'avoir des milieux non boisés, sans absence de friche, pour avoir de jolis paysages bien dégagés et pouvoir se promener. Donc on intègre aussi cette attente, on intègre aussi les activités économiques qui peuvent avoir lieu sur les sites. Un autre critère, ça peut être aussi de se dire il faut peut-être qu'on ait une diversité de ces différents types de milieux à l'échelle de notre région. Toujours si on reste sur l'exemple des côtes de Clermont, aujourd'hui on n'a pas beaucoup de secteurs qui sont vraiment en pelouse, bien dégagés. On a beaucoup de secteurs qui sont en friche, avec des secteurs de friche à prunelier. Et puis si on laisse évoluer ces friches, on ira vers des chênaies, des forêts de chênes. On n'en a pas beaucoup. Donc c'est de se dire peut-être qu'il faut favoriser aujourd'hui plutôt soit les secteurs de pelouse, soit au contraire laisser évoluer vers des chênaies. Et peut-être que ces choses changeront dans quelques années. Et le dernier critère qu'on peut prendre en compte, c'est celui de la dynamique naturelle des écosystèmes. Là, je vais illustrer ça avec un autre exemple. On va privilégier le fonctionnement naturel de la nature. Par exemple, au bord de la rivière Allier, nous achetons des parcelles pour que la rivière puisse les éroder, reprendre des graviers. Et là, même s'il y a une espèce rare, on préfère laisser la rivière reprendre du gravier pour retrouver un fonctionnement naturel. Et c'est le choix qui est fait. Et donc, on compose avec l'ensemble de ces différents critères.
Comment vous passez à l'action ?
Alors, dans les actions qui sont menées, il faut bien distinguer souvent deux phases. Une première phase qui va être la restauration. On remet en état un site qui a été abîmé. L'exemple le plus classique, c'est une tourbière ou une zone humide qui a été en partie asséchée. Si on veut qu'elle retrouve son état, il faudra d'abord lutter contre cet assèchement. Donc on va essayer de boucher, par exemple, le fossé qui avait été fait pour la drainer. Et ensuite, on est plus dans des phases d'entretien, de gestion courante. Pour faire cela, donc on prend les différents critères qu'on a vus tout à l'heure. On les rassemble, on engage une réflexion, à la fois scientifique avec le conseil scientifique, mais c'est aussi une concertation qui peut associer les gens localement, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être dans des démarches participatives et de demander aux gens ce qu'ils ont envie, ce qui les intéresse par rapport à leur patrimoine naturel, notamment en leur demandant quel type de paysage ils préfèrent, et on essaie d'intégrer cette dimension paysagère pour faire ce choix. Puis une fois que ce choix est réalisé, on passe dans la phase très opérationnelle des choses. On a des agents au conservatoire qui travaillent, on travaille avec des entreprises locales et puis on travaille beaucoup avec les agriculteurs pour gérer les sites sur le long terme.
Alors des exemples, on va passer à des exemples très concrets autour de nous, des exemples de travaux, d'actions qui ont été menées. Par exemple, pas très loin de nous, vers Saint-Bauzire.
Alors sur Saint-Beauzire, au bord de l'autoroute, on a le marais salé de Saint-Beauzire qui avait été, donc qui est très intéressant, avec des plantes de bord de mer, et qui avait été en partie comblé par des remblais qui avaient été installés là il y a quelques 20 ou 30 ans. Là, on a fait une grosse opération pour enlever ces remblais. L'idée, c'était de retrouver le niveau du sol originel, de manière à réactiver la banque de graines et permettre aux plantes salées de pouvoir repousser, retrouver un espace de vie favorable. Autre exemple, on travaille sur les coteaux de Mirabel, sur la commune de Rion, avec des éleveurs locaux. On débroussaille des zones et ensuite on les confie en gestion aux éleveurs de manière à ce que ce soit les moutons qui fassent l'entretien. On peut aussi avoir d'autres choix qui sont faits, par exemple sur le Haut-Forez. On a des parcelles de forêt dans la vallée glaciaire des Reblats, où là au contraire, on a acheté ces parcelles et on les laisse évoluer sans aucune intervention. On est dans ce qu'on appelle de l'évolution spontanée, de la libre évolution. C'est un autre choix de gestion, on laisse la nature se débrouiller.
Ouais, vous laissez faire la nature.
On laisse faire la nature. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette diversité d'actions, puisque plus on va avoir des modalités de gestion différentes, plus on aura une capacité à accueillir des espèces différentes.
Mmh. Et puis, dans le Val d'Allier, à Pérignat.
Alors, sur le Val d'Allier, on est sur l'exemple que je citais tout à l'heure avec la rivière Allier, où la rivière ne pouvait pas prélever des graviers et des matériaux parce qu'il y avait eu un enrochement qui avait été mis en place pour la bloquer. Aujourd'hui, cet enrochement n'avait plus de fonction, plus d'utilité. Donc, on vient de supprimer cet enrochement sur une longueur de 180 à 200 mètres, de façon à ce que la rivière retrouve son espace de liberté, un fonctionnement normal, et puisse ainsi contribuer à la fois une biodiversité importante, mais aussi une nappe phréatique qui nous permet d'avoir une eau de qualité.
Et vous vouliez terminer avec le suivi écologique ?
Voilà, le suivi écologique, c'est de dire on a défini ces orientations, mais encore faut-il vérifier que le site évolue bien tel qu'on le souhaitait. On n'est pas dans des sciences exactes, les sciences naturelles, c'est pas toujours entre la théorie et la réalité.
Oui, c'est ce qui est bien aussi. Hein.
Voilà, et donc on met en place des suivis écologiques avec un certain nombre d'espèces qu'on appelle des espèces bio-indicatrices. Si je reprends un exemple à l'heure de zone humide, on veut restaurer la zone humide. En regardant l'évolution de la flore, on verra si les plantes qui sont typiques des zones humides réapparaissent ou pas. Si elles réapparaissent, c'est qu'on a on est sur une bonne trajectoire du site. Mmh. Si elles réapparaissent pas, c'est qu'on a un problème et qu'il faut s'interroger pourquoi ça ne fonctionne pas. Mmh. Et donc ces suivis se mettent en place sur le long terme, parce que souvent les milieux naturels ils mettent des années, voire des dizaines d'années à réagir et à se reconstituer.
Eh bien, merci beaucoup Pierre Maussan. Donc je rappelle, Pierre Maussan, vous êtes le directeur du CEN, le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne, qui gère les espaces naturels, et on a vu aujourd'hui pourquoi et comment. À bientôt.
À bientôt.